Carnet de voyage. Une invitation.
Bonjour à tous, un grand plaisir de se retrouver dans le carnet de voyage avec Alain Castan. Bonjour Alain.
Bonjour.
Tu reviens d'un grand périple à l'autre bout de la planète. Tu as fait la Nouvelle-Calédonie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Pour un forestier convaincu comme toi, soucieux de ton empreinte carbone, on a envie de te demander qu'est-ce que tu as mis en compensation. Une forêt d'arbres dans ton jardin, je suppose.
Ouais,
j'espère.
C'est ça. Non.
Tu as agrandi le jardin pour des vols long courriers voilà. Aussi dispendieux.
Non, mais c'est toute ma carrière de forestier qui est...
Suffit.
Voilà, suffit.
Compensé. Alors en fait, tu as un alibi en béton hein, pour cette gabegie de carbone. C'est tout simplement que ta fille était en manque de ses parents et ce voyage était une obligation familiale.
Quasiment.
Ouais, je crois qu'il y a une remise de peine délivrée par l'ADME quand c'est une obligation familiale.
Voilà, tout à fait. Nos enfants sont là-bas depuis 3 ans et ils y sont arrivés juste au début du Covid. Et donc, on n'avait pas vu notre fille, notre gendre et puis les 3 petits-enfants depuis 2 ans et demi pratiquement.
Tu as réparti un peu les 4 mois en 2 mois sur Calédonie,
trois semaines sur la Nouvelle-Zélande et 1 mois sur l'Australie, la côte sud-ouest de l'Australie. C'est un pays, un continent qui est tellement vaste qu'on a concentré sur le sud-ouest de l'Australie.
On fera une toute petite partie sur l'Australie, malgré le mois. Et on va démarrer par la Nouvelle-Calédonie. Donc, tu as fait 2 mois, hein, comme on vient de le dire. Donc, c'est le temps d'enchaîner les musts, entre guillemets, de là-bas. Le premier, c'est les terres rouges du Mont d'Or, avec la vue sur la baie turquoise de Nouméa.
Oui, oui. Donc, la Nouvelle-Calédonie, donc c'est un morceau de croûte océanique qui est perché à la surface suite à un phénomène d'obduction. C'est la croûte océanique qui plonge trop rapidement sous le continent et il y a des écailles qui sont portées en hauteur. Et donc, c'est des terrains de croûte océanique qui, sous l'effet des pluies tropicales, sont érodés dans des terres rouges absolument magnifique. On a pu eu la chance de monter au Mont d'Or, qui est à 825 mètres, à moins de 2 km de la côte, juste au sud de la baie de Nouméa, avec un panorama absolument sublime. D'un côté, donc sur les bleus turquoises du lagon, ouais. Et de l'autre côté, sur les terres rouges, plus ou moins exploitées pour les mines de nickel et les versants verts de forêts tropicales.
Et on se pose la question, les mines de nickel sont juste à côté de la ville de Nouméa.
Tout à fait.
Donc tu as des convois de camions qui vont et viennent.
Non, non, ils sont un peu plus au sud, mais effectivement le système d'exploitation du nickel est assez spécial parce qu'on profite de la croûte océanique qui est très riche en silice, lessivée des autres minéraux par les pluies tropicales, et donc en fait l'exploitation du nickel c'est juste les 3, 4, 5 mètres de surface qui sont raclés sur des milliers d'hectares pour ensuite être broyés et traités soit par les chaleurs, soit par l'acide sulfurique pour récupérer le nickel, puisque la croûte océanique est naturellement riche en nickel et enrichie par les civas de pluie depuis des dizaines de milliers d'années.
Et quand on se promène en bateau, on voit les raclages de...
Voilà, on finit par intégrer ça dans le paysage, donc avec des parties rouges décapées pour le nickel, plus ou moins réembroussaillé, et puis les versants trop abrupts qui restent verts, et puis le bleu turquoise du lagon qui sont absolument magnifiques.
Alors on sent dans tes explications le géologue en herbe hein, qui suit les cours actuellement à l'UTL.
Voilà, tout à fait. on n'avait pas étudié justement le phénomène d'obduction que je ne connaissais pas, qui est une subduction trop rapide et qui provoque qui projette des écailles de croûte océanique sur le continent. Et c'est une belle illustration, la Nouvelle-Calédonie.
Et puis ça va te donner une occasion d'emmener Mariana, ta prof de géologie, voilà, directement là-bas. Tu y retourneras.
D'accord.
Alors le deuxième must, c'est tout bêtement la baignade avec les tricots rayés. Donc tricots rayés, on imagine les Dalton, les rayures des t-shirts des Dalton, échappés du bagne de la Guyane. Guyane pour racketter les touristes. En fait, c'est beaucoup plus petit et beaucoup plus venimeux.
Oui, oui, c'est en fait c'est un serpent aquatique qui est, je crois, le serpent le plus venimeux, avec le venin le plus toxique encore que le cobra, et qui jonche la majeure partie des plages, et particulièrement au phare Amédée, qui est une petite île à 20 kilomètres du rivage, qui fait 300-400 hectares. On se baigne donc avec sur les plages donc les tricoriers qui vaquent à leurs occupations, mais qui sont très indolents et pas agressifs du tout. On les croise également en nageant, puisque ce sont des serpents qui peuvent faire 5-6 minutes d'apnée pour aller chasser les poissons.
Et puis ils sont tout petits, en fait, ils pourraient flotter carrément.
Oui, ils font 50 cm, ouais. 1 cm et demi, 2 cm de diamètre. Ils sont pas agressifs du tout. Ma fille, par exemple, j'ai une photo où elle a un serpent qui lui passe sur le pied sans qu'il bronche plus que ça, ni elle ni lui.
Ce qui est marrant, c'est que c'est un cobra des mers, on l'appelle comme ça, mais il attaque pas du tout les humains.
Les humains.
Il se balade au milieu.
Voilà, les humains pas du tout. Il est spécialisé sur les poissons.
Un nouvel incontournable de la Nouvelle-Calédonie, c'est la balade naturaliste en kayak nocturne au parc de la Rivière Bleue. Alors pourquoi nocturne ? C'est pour capturer les cagous, les voir en train de dormir ou...
C'est surtout pour l'atmosphère, par pleine lune. C'est un lac artificiel donc qui est installé sur les plateaux et qui sert à l'alimentation électrique de Nouméa et puis à l'alimentation en eau des usines de nickel du sud. Il y a de la forêt immergée noyée avec des squelettes d'arbres, et donc de faire du kayak dans ce cimetière de forêt par la pleine lune, ça laisse de bonnes impressions.
Mais on parle même de musée à ciel ouvert.
Par ces arbres, oui, qui sont la trace de l'ancienne forêt. Bon, on y voit quelques nids d'aigles pêcheurs, quelques chauves-souris aussi.
Nouvelle-Calédonie, on voit que c'est le royaume de la baignade, puisque tu t'es encore baigné dans les grottes de la troisième.
Grotte de la troisième. Voilà.
Oui, je me demandais, la deuxième et la première n'étaient pas disponibles, non, c'est ça ?
Je sais pas.
C'était fermé.
Ça s'appelle comme ça, la troisième. C'est une grotte. C'est bon. Certaines parties de l'île ont été recouvertes par du récif, voilà, c'est ça, d'anciens récifs qui ont été émergés et qui eux aussi ont été érodés par la pluie. Et donc c'est des dalles rainurées de passage de pluie avec quelques avennes qui communiquent donc avec la nappe qui est en dessous, et donc c'est assez agréable dans la forêt tropicale d'aller se baigner dans de l'eau un peu plus fraîche en profondeur.
Tu as pas pu manquer évidemment la traditionnelle journée de pêche qui se passe aux Pléiades. Avec le rituel étrange, tu m'as dit, on s'étend au fond de l'eau et attend que les poissons passent au-dessus de soi.
Enfin, pas nous, les pêcheurs de Saint-Joseph, effectivement, qui nous ont emmenés donc pour cette journée. Donc, ce sont des pêcheurs qui vivent de leur pêche, et en fait, ils pêchent en apnée au fusil. Et ce sont des jeunes qui sont très très sportifs et très aguerris à la mer, et donc ils descendent à 5-6 mètres de profondeur, se plaquent sur le fond, restent en apnée pendant plusieurs minutes, jusqu'à 5-6 minutes, et flèchent leur poisson depuis le fond par en dessous pour les attraper, quoi.
Mais je crois que les enfants de ta fille ont été essayer de pratiquer un petit peu, non ?
Ben, eux, c'est surtout la pêche à la traîne. Le plus jeune, 11-12 ans, là, était un féru de pêche à la traîne. Il était tout content de voir les gros poissons qui étaient pêchés par ces jeunes néo-calédoniens. Ils ont pêché une cinquantaine de kilos de poissons comme ça, et il y avait des poissons d'un mètre de long et de 20-25 kilos.
Tu m'as dit que d'ailleurs les Calédoniens avaient l'habitude de mettre les poissons dans des grandes glacières, et les glacières voyagent par avion pour amener à leur famille, à leurs parents, à l'occasion des fêtes.
Voilà, c'est ça. À l'occasion des fêtes, on était peu avant Noël et Jour de l'An. Et donc là, ils profitaient de notre randonnée pour pêcher les poissons à envoyer à la famille pour Noël, quoi.
Moi, il y avait quelque chose que j'aurais voulu voir si j'avais été en Nouvelle-Calédonie, c'est les baleines à bosse et les raies-mantas. Et tu m'as dit que tu avais fait l'impasse contraint et forcé là-dessus.
Eh oui, sur les baleines à bosse, parce que c'était pas la saison. Je crois qu'elles y sont plutôt en été, en juillet-août. À cette saison-ci, elles sont déjà remontées. On les a pas vues. On a juste aperçu quelques raies-mantas dans le lagon.
Hein. On va faire une petite pause avec une musique nouvelle-calédonienne.
Mon épouse qui l'a trouvée pour sonoriser les diaporamas films qu'elle fait.
J'ai retenu que le nom c'était Kavera Temanu. Donc on écoute. Nous remontons doucement à la surface du lagon et nous allons nous téléporter en Nouvelle-Zélande directement, dans les 40e rugissants au détroit de Cook. Est-ce qu'on voit encore, c'est ce que j'imagine, est-ce qu'on voit encore les corps des marins fracassés par les 40e rugissants?
Le détroit de Cook, donc c'est le détroit qui sépare l'île du Nord et l'île du Sud. Donc effectivement, il se situe dans les 40e rugissants. Mais bon, le jour où on est passé, c'était d'un calme et d'une zénitude totale. Donc on n'a pas pu goûter
aux
embruns du 40e rugissant. Par contre, ce qui était absolument magnifique et vraiment époustouflant, c'est que pour aborder... L'île du Sud, donc on accoste à Picton, qui est un petit port, donc qui est au nord de l'île du Sud, et ce port est au fond d'un fjord de 25 ou 30 kilomètres qu'on a remonté avec le ferry. Le ferry fait 10 ou 15 mètres de large. On s'engage dans une passe qui doit faire à peine une centaine de mètres de large, et puis on remonte le fjord comme ça en faisant des zigzags dans les terres sur 20-25 kilomètres. C'est vraiment très très beau et très impressionnant.
Dès le premier soir, en fait, tu abîmes ta voiture de location et on sent que c'est un peu le prétexte subtil pour rencontrer les locaux et profiter de leur gentillesse. Et en plus, ça marche.
Oui, oui, tout à fait. Je me sentais un petit peu en retard pour retrouver quelqu'un et donc je traverse depuis Auckland jusqu'à la côte 80 km de petites routes nationales. Enfin, les routes sont assez étroites, elles ne sont pas limitées en vitesse, elles sont sinueuses. Je n'ai pas eu le temps de m'apercevoir que les accotements n'étaient ni protégés par des grillages, ni entretenus régulièrement. Et à la sortie d'un virage, je me suis effectivement trouvé en face d'un gros bloc de rocher que j'ai percuté et qui a complètement tordu ma jante, dégonflé mon pneu. Et je me suis trouvé très mal en peine dans une voiture de location qui est un petit camping-car où le creek était caché. En fait, j'ai découvert plus tard derrière le frigidaire, pas désemparé. Et donc là, il y a un jeune Australien, vraiment un homme adorable.
Une perle.
Une perle qui, en moins de 5 minutes, a sorti un creek de sa voiture, m'a changé ma roue vraiment, vraiment très gentiment et m'a sorti une belle épine du pied.
Vous êtes retrouvé après, non? Tu lui as...
Oui, on a failli se retrouver parce que j'ai été faire demi-tour après pour revenir sur mes pas et j'ai oublié qu'on roulait à gauche et j'ai failli le percuter de face.
Je sais pas s'il aurait
apprécié.
Je sais pas s'il aurait accepté ça comme un remerciement. L'image mythique de la Nouvelle-Zélande, c'est la forêt du Lothlorien, du Seigneur des Anneaux, qu'on voit dans le film. As-tu bilboté au village des Hobbits?
Presque, oui, puisqu'on a couché dans un petit camping du parc national là, qui se situe à 300 mètres du lieu de tournage des scènes forestières. Et le lendemain, on a eu le chance de faire une magnifique randonnée dans une forêt primaire de montagne, absolument stupéfiante. Donc après 25 kilomètres de pistes caillouteuses, en franchissant 5 guets où à chaque guet, on nous disait « attention, vous n'êtes pas sûr de pouvoir franchir au retour, il peut y avoir des crues ». Et après avoir fait 2 heures, c'est-à-dire 9 ou 10 kilomètres de marche au milieu de cette forêt, avec des arbres pourris et autres.
Et au fond du paysage, on voit les montagnes volcaniques, voilà, comme dans le film.
Tout à fait, avec les sommets enneigés, quelques clairières en bordure, et on a remonté un gros torrent, enfin la Dust River, fait une fois et demie, deux fois la Durance, là, et donc on était vraiment perdu au milieu de nulle part dans une forêt primaire, et c'est là d'ailleurs qu'on a eu une surprise étonnante, tout d'un coup un bruit de hors-bord qui rompt le silence, et puis un deuxième hors-bord, et puis un troisième, et en fait c'était des touristes avec gilets de sauvetage, enfin qui étaient emmenés une douzaine pour chaque hors-bord, pour faire 80 kilomètres de raid sur le fleuve, alors que nous, on se croyait en pleine nature.
Ouais, vous croyez au bout du monde.
Au bout du monde. Voilà, c'est un petit peu les surprises de la Nouvelle-Zélande.
La Nouvelle-Zélande, on imagine que c'est un paradis écologique. Et toi, tu as pu le vérifier avec l'Alpine Trail. C'est un train à travers des écosystèmes du Mont Cook jusqu'à l'océan.
C'est dans la région du parc Tororua. Il y a une section qu'on voulait faire, donc de 19 kilomètres à travers les volcans. Alors, c'est des volcans récents avec des lacs volcaniques à 1900 mètres d'altitude, à peu près, 2000 mètres d'altitude. On a été arrêté par le brouillard et la pluie parce que, donc, depuis 3 ans, là, ça s'est arrêté au mois de mars dernier. La Niña, qui est un courant froid qui sévit dans le Pacifique Sud, a complètement bouleversé le climat de Nouvelle-Calédonie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et donc, les étés sont très pluvieux et très frais. Ouais. Et donc, les 11 premiers jours dans Nouvelle-Zélande du Nord ont été sous la bruine et dans le brouillard. Et donc, on a juste fait le début de cette Alpine Trail. On a vu les belles coulées récentes et puis le relief volcanique. Mais on n'a pas pu faire le sommet et les lacs, ce qu'on a beaucoup regretté.
La préservation de l'environnement est très, très poussée là-bas, puisque le parc dont tu parles, le Rotorua, là, c'est une réserve thermale, en définitive.
Voilà.
Tu parlais des volcans, mais tu as pu approcher les fumerolles et le soufre qui créent des particularités, les solfatares.
C'est un petit peu plus au nord, et notamment une vallée, c'est assez étonnant, on descend toute la vallée à pied sur une dizaine de kilomètres, et puis on est remonté après par un petit bus, et c'est une vallée qui a explosé, je crois que c'est au début du XXe siècle, avec une gigantesque éruption. Il en reste donc des lacs d'acide sulfurique, des solfatarés avec des vapeurs de soufre, ouais, ouais. Et des ruissellements avec des couleurs tout à fait étonnantes. Non, jaune, brun. Et puis une végétation luxuriante qui s'est réinstallée là-dedans une centaine d'années après. C'est vraiment magnifique.
Tu vas nous livrer tes réflexions sur l'écologie à la néo-zélandaise, qui est assez déroutante, hein, puisqu'on parle d'héliportage de défoliants, d'appâts empoisonnés. Tu nous parlais tout à l'heure des canaux à moteur là, qui remontent les cours d'eau.
Oui, c'est assez étonnant. Enfin, en caricaturant un peu, je disais... Les deux principales occupations d'un agent de l'environnement en Nouvelle-Zélande, c'est de distribuer des appâts empoisonnés dans toutes les forêts naturelles. Et donc, toutes les randonnées qu'on a faites, tous les 100 mètres, il y a un petit fanion indiquant qu'il y a un piège, avec un appât empoisonné, pour supprimer les prédateurs qui ont été introduits par les colons et qui, en ce développement, menacent les oiseaux locaux. Donc, même à l'entrée des randonnées, il y a un petit panneau expliquant qu'il faut suivre les balises jaunes qui sont celles de la randonnée, mais surtout pas suivre les balises roses ou bleues qui sont celles qui repèrent les pièges, enfin qui permettent d'accéder aux pièges.
Ça fait un peu champ de mine.
Voilà, tout à fait, exactement. Et c'est pratiquement tous les 100 mètres sur toutes les randonnées. Puis oui, pour le défoliant, c'est aussi une curieuse approche. En 1950, des forestiers néo-zélandais ont eu la bonne idée pour lutter contre l'érosion et d'installer le pin Contorta, qui est un pin qui est en provenance des États-Unis, dans des paysages qui ressemblent au mont d'Auvergne, enfin des jolis paysages herbacés et tout. Et puis le pin Contorta, 60 ans après, et ben il progresse dans ces paysages menaçant un peu les pâturages. Et nos amis néo-zélandais, courageusement et de façon étonnante, ne trouvent rien à redire à supprimer ces pins en épandant des défoliateurs par hélicoptère. Donc il y a des versants entiers, des centaines d'hectares de pins qui sont éradiqués par le défoliant. Alors quand ils sont un petit peu plus soigneux, ils n'éradiquent que les 150 mètres supérieurs, c'est-à-dire la zone de progression pour empêcher le boisement de progresser. Mais enfin voilà, c'est assez étonnant.
Concernant la sylviculture qui est ton domaine de cœur, tu m'as dit que la liniculture est au degré zéro avec un aménagement généralisé des forêts naturelles. Donc ça aussi, ça fait mal au cœur pour toi.
En fait, les Néo-Zélandais, comme beaucoup de l'anglo-saxon, au contraire des Européens comme nous, ne visent pas une multifonctionnalité de la forêt. C'est-à-dire que nous, ici, dans une forêt, on produit du bois, on accueille des touristes, on protège l'écosystème. On essaye de faire tout à la fois au même endroit, quoi. Alors que eux, c'est clair, les forêts naturelles sont consacrées soit au tourisme, soit à la protection, donc aménagées en parc et en réserve. Et pour la production de bois, ce sont des champs d'arbres qui sont plantés artificiellement. C'est donc une liniculture comme un champ de blé ou de maïs. Alors là, en plus, au degré vraiment, j'estime zéro, parce que ils procèdent donc par coupe rase complète sur des centaines d'hectares, y compris sur des versants pentus de montagne. Jamais on oserait faire ça en Europe ou en France. De manière assez étonnante, ils abandonnent 30 ou 40% du matériel coupé. Donc ils sont encombrés par ces déchets. Ils trouvent rien de mieux que de les entasser sur des andins linéaires qui zèbrent le paysage, avec des andins qui sont à 7-8 mètres de haut, où les bois ne se décomposent pas parce qu'ils ne sont pas en contact avec le sol. Ça reste des dizaines d'années.
Et ils font des élagages en plein aussi.
Voilà, la seule intervention qu'ils font, qui est assez étonnante, d'ailleurs parce que nous, on ne la fait pas parce qu'elle est très coûteuse, ils élaguent la plupart des arbres quand ils ont une quinzaine ou une vingtaine de mètres de haut, mais ils ne font pas d'éclaircies, ce qui fait que les peuplements sont impénétrables jusqu'à la récolte. Voilà,
et donc c'est jusqu'à vraiment la race finale, aucune éclaircie.
Voilà, tout à fait, c'est assez étonnant.
On va laisser un petit peu la Nouvelle-Zélande et on va sauter gaiement en Australie, où tu t'y émerges dans un patrimoine écologique inestimable que sont les forêts humides du Gondwana, qui est un peu le nirvana de la biodive, qui date de 40 millions d'années.
Tout à fait. Donc, ce sont des forêts reliques, donc, qui proviennent des peuplements forestiers qui étaient sur le continent Gondwana, autrefois, et qui sont donc dans la partie nord de l'Australie, entre Brisbane et Sydney, dans tous les ravins abrités, enfin, qui reçoivent l'eau des précipitations du Pacifique. Et c'est de magnifiques forêts tropicales, avec des fougères arborescentes et des arbres de très grandes dimensions, et qu'ils protègent bien et qu'ils font bien visiter.
Une photo emblématique que tu m'as montrée, c'est le London Arch. Ça ressemble un peu à Etretat, mais en très coloré et en plus vaste. Ou alors carrément à la petite Suisse de Tenerife où j'avais été, mais aux îles Canaries.
Oui, donc c'est toute une partie de la côte sud. Il y a toute une série de bancs de grès déposés à l'horizontale et qui sont érodés donc par les eaux océans Pacifique sud, et qui forment des falaises absolument magnifiques. Donc le plus célèbre, c'est les 12 apôtres, des restes de falaises qui sont à quelques dizaines, centaines de mètres de la côte. Et il y en a une douzaine, donc on les appelle les 12 apôtres. Enfin, il y en a plus que 7 ou 8 maintenant, parce qu'il y en a 3 ou 4 qui sont effondrés. Et puis moi, j'ai préféré donc la London Arch, un plateau qui a été creusé en dessous et qui fait une espèce d'arche magnifique en bordure de côte.
Oui, et puis qui est très dimensionné, avec des couleurs jaunes.
Voilà, tout à fait. C'est les grès plus ou moins ferrugineux, diverses teintes de jaune et de rouge. C'est vraiment magnifique.
On arrive au terme en temps de notre émission. On aimerait t'écouter encore pendant des heures. Donc tu as droit à la question piège de Bilon de tout voyageur. Quel est le surnom de l'Australie, le grand surnom de l'Australie ?
Le pays le plus au sud, non, c'est ça?
Oui, c'est ça, ouais, c'est Down Under. Ouais. Down Under. Le pays en dessous des pays du monde.
Oui, et c'est quelque chose dont je me suis aperçu. Je vous invite à regarder une planisphère. Le plus au sud, en fait, c'est 45 degrés. Ouais. C'est la latitude de Valence. Et donc, tout au sud de ça, il n'y a que de l'océan, alors que l'hémisphère nord, au nord de Valence, vous avez toute la Suède, la Finlande, la Sibérie, l'Alaska, etc. Et donc, en fait, c'est pour ça que Australie et la Nouvelle-Zélande sont sous l'effet des courants circumpolaires de l'Arctique qui n'ont pas de frein pour se développer, alors que nous, l'océan Arctique est compartimenté par les différents continents qu'on a. Mais c'est étonnant, l'hémisphère sud est un hémisphère d'océan, alors que l'hémisphère nord est un hémisphère de continent. Regardez la planisphère.
Mais je vois que depuis que je t'en ai parlé, tu as regardé la planisphère.
J'avais regardé avant. C'est ce qui explique d'ailleurs. Mon couc, il est à peine à 3000 mètres et les glaces éternelles sont à partir de 1500 mètres, alors que nous, elles commencent à 3500 mètres, alors qu'ils sont à la latitude de l'Algérie ou à peu près. Quoi.
Ouais,
c'est
gros, ouais.
Assez
ouais.
Étonnant. Quoi.
Je vois qu'en géographie, maintenant, tu commences à bien être au point aussi. tu progresses autant qu'en géologie. Merci Alain de nous avoir appris que les tricots rayés flottaient en Nouvelle-Calédonie.
Plonge aussi.
Hein, et plonge aussi. Et de nous avoir fait bilboter dans les forêts du Lot-Laurien, néo-zélandais, et aussi d'être venu entier du dessous du monde australien.
Merci.
Merci à toi.
Fa o tu i te mafatu, te are.